bienvenue dans la deuxième partie de la Grande Table si vous nous rejoignez maintenant avec Antoine Mercier à mes côtés. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le corps des femmes, ce nouveau champ de bataille. On en parle avec notre premier invité, l'historien Fabrice Virgili, directeur de recherche au CNRS, co-auteur avec Raphaël Branche de l'ouvrage « Viol en temps de guerre » paru chez Payot en 2011. Et avec la journaliste Manon Loiseau pour son documentaire « Syrie, le cri étouffé », le cri de ces femmes syriennes violées par leurs geôliers dans les prisons d'État. Réalisatrice de nombreux documentaires en Russie, en Géorgie et en Tchétchénie, dont Grozny, chronique d'une disparition, ou encore Tchétchénie, une guerre sans trace, prix Albert Londres en 2006 pour son film La malédiction de n'être femme, tourné en Asie. Annoncé ce soir, le film a été reprogrammé sur France 2 le mardi 12 décembre, en deuxième partie de soirée, réalisé par Manon Loiseau, écrit avec la journaliste du Monde, Annick Cojan, et la chercheuse et militante libyenne, Souad Weidi. Un film pudique à l'image. Pudique à l'image et violent, mais violent dans les mots cette fois, et dans les silences qui s'expriment, et dans la douleur que ces images et ces mots révèlent. À nos côtés, donc, vous êtes là l'un et l'autre, bonjour.
Bonjour.
On en
bonjour.
Écoute tout de suite un extrait.
Quand est-ce le matin ?
La nuit était tombée. On était au mois de novembre. La porte s'ouvre. Trois colosses entrent. Ils sont énormes. Peut-être est-ce moi qui les voyais énormes. J'étais assise au bord du lit, en pleine angoisse sur ce qui allait m'arriver. L'un d'eux a demandé à un autre. C'est elle ? Oui, c'est elle. Ouah, elle est jolie. Tu commences toi ou je commence moi ? À cet instant, j'ai senti la peur monter. Ça veut dire quoi, tu commences ou je commence ?
Manon Loiseau, cette femme syrienne qui témoigne devant votre caméra n'avait jamais parlé jusqu'ici ?
Non, jamais. Comme beaucoup, beaucoup de femmes syriennes, le viol comme arme de guerre, le viol est un tabou absolu dans la société syrienne. Depuis 2 ou 3 ans, certaines de ces femmes avaient témoigné dans la presse écrite. Notamment Annick Cojan avait écrit, il y a 3 ans maintenant, un grand article là-dessus, avait recueilli les premiers témoignages. Mais moi, j'étais en 2011 à Homs. J'avais entendu parler des viols en prison, mais personne ne voulait parler. Ce qui les a décidées à parler, je pense, aujourd'hui, c'est la situation actuelle, c'est-à-dire la reconnaissance par l'Occident, finalement, d'un état de fait, d'une paix à la Russe et l'acceptation de Bachar al-Assad. Ce qu'elles nous ont toutes dit, c'est que, voilà, en fait, vous ne nous avez pas aidés, rien ne vous a émus. Les attaques à l'arme chimique, ces corps d'enfants, ces milliers de clichés du rapport César, on voyait les corps suppliciés de ces hommes en prison. Peut-être que ça vous touchera. Mais c'est une parole qui coûte très cher, parce que cette parole-là peut... elle risque énormément en l'apprenant. Certaines femmes ont été victimes de crimes d'honneur parce que leurs familles ont appris qu'elles avaient été violées. Les chiffres sont très compliqués en Syrie. On parle de 50 000 femmes qui auraient été arrêtées. Il faut voir que plus de 90% des femmes qui sont arrêtées ont été violées. Et quand elles ressortent, elles sont rejetées par leurs familles.
La plupart d'entre elles, hein, celles que vous avez rencontrées, ont manifesté au premier jour de la révolution en 2011. Elles seront par la suite arrêtées, certaines pour activité terroriste ou prise en otage comme monnaie d'échange. Tu te rends ou on garde ta femme, ta fille. Voilà ce qu'on dit aux hommes, aux maris, aux pères. Vous le dites, elles témoignent face caméra, mais alors de dos, des visages dans l'ombre ou à la lumière. Peu de visages, mais surtout des voix. Et c'est peut-être le principe, le but de ce film aussi, redonner de la voix aux femmes victimes d'abus sexuels en Syrie. Les femmes que vous avez rencontrées racontent leur histoire. Elles racontent l'avant, elles racontent le pendant et elles racontent aussi l'après, alors qu'on les a toujours encouragées à se taire. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, Fabrice Virgili, elles acceptent de parler, elles acceptent de témoigner. Est-ce que c'est aussi dans un but de documentation, documenter cette guerre, apporter des preuves, apporter leurs paroles comme
documentation,
des actes.
Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être d'inverser leur rôle, c'est-à-dire passer de victimes complètement enfermées dans un silence imposé par la société syrienne à un tout petit peu actrices qui vont prendre finalement la parole pour dénoncer ce qu'elles ont subi, pour que ça ne reste pas dans ce secret. Et je crois qu'il y a un geste très courageux de leur part, sans aucun doute, ici. Alors, si on regarde l'ensemble des conflits, elles ne sont pas les premières forcément à avoir parlé, mais ce qui est certain, c'est que cette prise de parole est toujours un moment difficile et que les premières ouvrent souvent la voie à d'autres, mais qu'il faut des premières.
C'est d'ailleurs la première fois qu'en fait qu'elles montrent leur visage. Il n'y a jamais eu de documentaire. Enfin, moi, on savait pas du tout si on allait pouvoir faire ce film. Et je me voyais pas faire un film qu'avec des ombres chinoises ou des ombres. Et celles qui montrent leur visage, c'est parce qu'elles n'ont plus de famille. Soit leur famille a été assassinée, soit elles ont été rejetées par leur famille. Ce qu'elles nous ont toutes dit aussi, c'est que pourquoi elles parlent, c'est parce qu'il reste entre 3 et 5 000 femmes syriennes encore en prison. Certaines sont de leurs amies, de leurs copines avec qui elles ont manifesté donc depuis 2011. Donc elle dit si au moins cette prise de risque, notre prise de parole peut aider à les faire sortir de prison. Voilà. Et l'autre chose, c'est que elles espèrent toutes que leur bourreau soit un jour jugé. Elles donnent les noms de leur bourreau, elles donnent le nom, les lieux des centres de détention. Et quelque part, c'est l'espoir que dans notre acceptation de Bachar al-Assad, il y a peut-être un moyen de négocier la libération des femmes syriennes. Et que ces criminels de guerre, parce que c'est un crime de guerre, soient un jour traduits devant une justice internationale.
Alors quels sont les lieux et quels sont et qui sont les bourreaux justement?
Bah, les lieux, il y a beaucoup de centres de détention. Il y a des centres aux alentours de Damas. Il y a des prisons dans chaque ville. De toute façon, ce dont on s'est rendu compte, ce que Annick avait déjà, que Jean avait déjà vu quand elle faisait son enquête il y a 3 ans, c'est un système. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de réfléchi par le régime. Dès le début de la révolte, on arrêtait les femmes parce qu'on savait que quand les femmes ressortiraient de prison, ça briserait la famille et donc ça brisait la société. Et c'était aussi pour briser l'élan de la révolution. Les ordres étaient donnés, ce sont des commandants qui violaient, qui donnaient des ordres aux personnes en dessous d'eux. On voit dans les prisons, c'est les témoignages, elles nous racontent des choses très très précises sur cette manière que dont chaque jour ça se passait. Ça allait du chef au sous-chef au sous-fifre. Enfin, c'était quelque chose de complètement pensé et ça allait toujours parce que ces hommes sont encore aujourd'hui dans ces prisons. Nous, on a rencontré un avocat en Jordanie qui, depuis 2011, enquête. Souvent, c'est des gens qu'elles connaissent parce que c'est des villes les gens se connaissent. Donc, ça peut être aussi les fils d'un voisin, elles connaissent les noms. Moi, j'ai vu les photos de ces hommes. Je sais, on a leur adresse et on sait qu'ils sont encore en train d'agir dans ces prisons-là. Donc, c'est aussi pour que ça s'arrête qu'elles ont décidé de prendre parole.
Dans la Syrie des Assad, que ce soit Fès d'abord, puis Bachar, l'une d'elles le rappelle d'ailleurs, hein, les murs ont des oreilles. Avant la guerre déjà, la peur était dans les maisons, un seul mot pouvait nous trahir, témoigne l'une de ces femmes que vous avez rencontrées, Manon Loiseau. Le cri est aussi étouffé par une culture du silence en Syrie. Hein. On apprend très jeune à se taire, rien n'est dit, mais tout se sait. C'est aussi ça le hiatus, le problème aujourd'hui, Manon Loiseau.
Ce qui est évident, c'est qu'une femme qui sort de prison, on sait qu'elle a été violée. En général, elle est tout de suite rejetée par sa famille. Il y a des femmes qui ont été arrêtées parce que leur frère ou leur mari était engagé dans l'armée libre. Elles n'avaient même pas manifesté. Elles ont été arrêtées pour que leur frère ou leur mari se rendent. Quand elles sont sorties de prison, ses frères ou ses maris les ont rejetées. Les ont mis à la porte avec leurs enfants et elles se retrouvent aujourd'hui dans des camps de réfugiés en Jordanie ou en Turquie. Les mères les ont rejetées, les sœurs les ont rejetées. Dans toute la difficulté, par exemple, j'ai beaucoup parlé avec l'ONU, Human Rights Watch, pourquoi ils ont tous eu, beaucoup ont vu le film, ont dit on n'a jamais réussi à voir ces témoignages parce qu'elles ne voulaient pas parler jusqu'à présent, parce qu'elles avaient trop peur. Même dans l'exil, elles ont peur. Parce qu'une femme... Les ONG n'ont jamais pu ouvrir de dispensaire ou de centre pour accueillir la parole ou aider psychologiquement parce que sinon elles seraient stigmatisées par le reste des gens qui sont dans le camp de réfugiés, femmes comme hommes, par la société. Donc c'est quelque chose qu'elles portent à vie.
Pourquoi elles sont rejetées finalement par toute la famille, alors que les hommes torturés qui sortent de prison ne sont pas rejetés?
C'est lié à la conception du corps de la femme dans l'islam, c'est lié vraiment au tabou total. On ne parle pas de ça. Une femme qui a été violée et souillée, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus. Et ce qu'elles nous disent, d'ailleurs, sur son film, il y a un témoignage très bouleversant qui dit, voilà, qu'est-ce que... En fait, on est torturé, violé par le régime, on est rejeté et condamné et banni par la société, qui parfois même nous tue, parce qu'il y a l'exemple d'un père justement qui tue sa fille, qui est dans un camp de réfugiés, qui retourne en Syrie et qui tue sa fille, parce qu'il a deviné qu'elle avait été violée. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On n'a plus qu'à mourir, mais je ne suis pas morte, qu'est-ce que j'y peux moi? Et elle dit aussi, nous ne sommes pas une honte, nous sommes un honneur. Et c'est vraiment les hommes effectivement qui ressortent, quand ils arrivent à survivre aux prisons de Bachar el-Assad, en fait, ils sont accueillis comme des héros. Et le viol fait partie du registre des tortures. On n'en parle pas du tout. Mais ils ne seront pas rejetés, ni par la famille, ni par la société.
C'est ça qui ajoute. Et c'est ça qui explique sans doute qu'elles sont prêtes à parler, puisqu'elles n'ont plus rien à perdre. Elles n'ont plus de possibilité même de se retrouver, d'être accueillies quelque part.
Non, mais elles prennent quand même un immense risque, parce que quiconque, alors on sait évidemment que quand ce film sera diffusé, il va être, il y a avec maintenant les YouTube et voilà, on sait très bien que ce film va circuler. Elles peuvent être rejetées par le reste de la société syrienne, même en exil. Après, moi j'ai vu que ça crée beaucoup de discussions avec les Syriens qui voient le film, il y a beaucoup de jeunes aussi qui disent il faut qu'on change.
Le viol comme arme de guerre, Fabrice Virgili, c'est aussi un décentrement de la violence de la rue vers l'espace privé, parce que ces corps violés sont aussi des corps programmés pour devenir des petites bombes à retardement dans leur foyer. En violant la femme, on sait qu'on va humilier les hommes, pères, les maris qui les entourent, on sait qu'on peut salir l'honneur d'une famille. Il y a préméditation, il y a voir planification quand on parle de viol comme arme de guerre.
Alors, dans ce cas-là, oui. Tous les viols commis en temps de guerre ne sont pas des viols d'armes de guerre, mais dans ce cas-là, on le voit bien, puisque leur arrestation même est ciblée, c'est-à-dire c'est bien elles qu'on arrête, parce qu'elles sont des militantes ou des membres de l'opposition au régime, et on voit ces images, je trouve, prises avec des appareils photos, ces tout petits films d'arrestation, qui sont évidemment des images volées, mais qui montrent bien, je trouve, ces scènes particulièrement significatif de ce point de vue-là, qu'on vient les chercher, elles, c'est pas des arrestations au hasard. Donc il s'agit bien là de les détruire dans quelque chose qu'on retrouve dans d'autres conflits, qui est vraiment le viol-torture. On sait bien que la torture, la finalité de la torture, c'est pas de faire parler, mais c'est bien de briser les individus. Et puis la terrorisation du camp adverse, parce que même si elles ne parlaient pas, comme vous venez de le dire, tout le monde sait qu'elles l'ont été. Et ça permet finalement d'instiller un climat de terrorisation, de terreur absolue dans le camp adverse, puisque cette violence-là a été imposée. Donc là, on est vraiment dans une arme de guerre, effectivement.
C'est aussi une guerre psychologique, en fait. Dans cet ouvrage que vous avez co-dirigé avec Raphaël Branche, « Viol en temps de guerre », vous avez interrogé les motivations des hommes qui pratiquent ces viols, et on est au-delà de la pulsion sexuelle. On est bien au-delà parce que, à travers le viol, on sait qu'on a un pouvoir d'humiliation, pas simplement de la femme, mais aussi de l'homme, de l'ennemi. Il y a un moyen de pression, un rapport de domination qui se fait, et d'ailleurs ça se traduit parfois par des viols filmés et des vidéos envoyées aux familles, c'est-à-dire que comme une lettre de menace, vraiment, on instaure et on distille l'humiliation dans la société.
Et je voudrais revenir sur cette question de pulsion sexuelle, parce que c'est souvent un argument qu'on avance finalement pour expliquer ou parfois même justifier les viols. Je crois qu'il faut mettre un terme à cette explication, parce que l'idée de la pulsion, tous les êtres humains sont habités de pulsions, et on apprend finalement dès notre enfance à contrôler nos pulsions. Parfois on peut avoir envie d'égorger son voisin, et on ne le fait en général pas. Et donc la question de la violence sexuelle est du même ordre, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pulsions sexuelles, qu'on soit homme ou femme, mais en général on apprend à les maîtriser. Donc il y a bien un autre ressort qui vient faire que cette violence sexuelle se déroule, c'est soit le sentiment de toute puissance, c'est la domination masculine, soit c'est un contexte de guerre particulier, qui va faire que le corps de l'ennemi, homme ou femme, mais surtout femme quand il s'agit de viol, est à votre disposition et vous avez à exercer une puissance, un pouvoir. On est plus du côté du registre de la puissance et du pouvoir que celui de la pulsion ou de la sexualité, finalement. Il y a vraiment une volonté de détruire et d'exprimer une puissance totale.
C'est ce qu'on entend dans le témoignage de ces femmes, hein, Manon Loiseau, quand elles décrivent leurs agresseurs, leurs bourreaux. Il y a souvent des détails physiques d'une corpulence, d'une masse en face d'eux qui est racontée et décrite, d'hommes qui seraient presque remontés pour agir. Hein.
Oui, alors elles décrivent, et puis voilà, c'était toute la difficulté du recueil de ces témoignages, parce que déjà avant qu'elles arrivent à prononcer le mot viol, c'était quelque chose qui arrivait parfois après 10 heures de recueil de paroles. Il faut bien voir qu'on n'aurait pas pu faire ce film sans la chercheuse libyenne Swad Wedi, qui a beaucoup travaillé en Libye avec les victimes de viols sous Kadhafi, et qui a donc su recueillir cette parole. On n'a pas du tout, il n'y avait pas d'entretien ou d'interview. Ces femmes commençaient à raconter cette souffrance du plus profond de leurs entrailles, c'est-à-dire qu'elles sont complètement psychologiquement détruites, leur chair est détruite, et donc elles racontaient. Elle revivait d'ailleurs en nous racontant, et c'est là qu'on avait aussi une grande responsabilité de refaire vivre un trauma, et un traumatisme, donc on faisait extrêmement attention, mais elle racontait ces espèces d'hommes qui arrivaient comme des ombres menaçantes, et avec des petits détails physiques comme ça, ou alors des détails sur... Alors elle donne le nom à un moment donné, une des femmes qui parle à visage découvert, Mariam, d'un colonel, le colonel Souleymane. Moi jusqu'à aujourd'hui je suis hantée par ce nom, et elle parle de lui qui l'accueillait. Elle dit voilà, nous on était toutes quand même, on avait fait des études, on était des intellectuels, et lui nous accueillait en nous jetant des pistaches, des coquilles de pistaches, et l'endroit où il nous violait, il y avait des bouteilles d'arak avec d'alcool, donc avec des petits verres, et il faisait venir tout le monde. Et ça, c'est vraiment des choses avec lesquelles elles vivent, et elles ne dorment plus, et tous les jours. C'est-à-dire que c'est ces noms, c'est les mots qui étaient utilisés aussi, d'une violence verbale inouïe, ces actes, et puis ces petits détails des criminels de guerre, quoi, de cette barbarie.
Avec nous aujourd'hui jusqu'à 13h30, la réalisatrice journaliste Manon Loiseau pour ce documentaire diffusé mardi, Syrie, le cri étouffé. Ce sera sur France 2 en deuxième partie de soirée. Et le chercheur historien Fabrice Virgili, co-auteur de l'ouvrage collectif Viol en temps de guerre, paru chez Payot en 2011.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Beaucoup de ces femmes que vous avez rencontrées, Manon Loiseau, sont encore, des femmes que vous n'avez pas rencontrées pour le coup, mais d'autres sont encore détenues. Beaucoup sont aussi mortes sous les coups ou se sont suicidées en prison. Pour les rescaper, celles-là, vous les avez rencontrées. L'une d'elles raconte comment elle a été sauvée par le médecin qui la soignait et qui l'a déclarée morte à ses tortionnaires pour lui permettre de s'échapper. Beaucoup vous disent qu'elles survivent à moitié à ce viol, d'autant plus que sortir de prison, avoir survécu, c'est forcément suspect, comme si elles avaient consenti à ce qui s'était passé à l'intérieur de la prison. On est vraiment face à une situation de violence, et sortir le viol du champ de la culpabilité personnelle et du déni collectif, c'est tout l'objectif aussi de ce film, de ces témoignages, de ces femmes. Le régime la viole et la société la rejette, dit l'une d'elles devant votre caméra. On est prise par les traditions et la culture d'un côté, et le régime de l'autre, et on meurt coincé entre les deux. Cette double peine, on l'entend à travers tous ces témoignages. Extrait.
فالمجتمع السوري مثل كل المجتمعات العربيه المسلمه بيشوفوا هذا الشيء كثير مؤلم وكثير عيب وبيهز معتقدات اساسيه عند الانسان المسلم.
La société syrienne fonctionne comme toutes les sociétés arabes musulmanes. Le sujet est très douloureux, honteux. Il ébranle les croyances fondamentales de la personne musulmane. Le viol a été utilisé comme un moyen de torture sur les femmes syriennes parce que dans notre culture, dans notre religion, le corps est considéré comme sacré. Il est inconcevable qu'il soit donné ainsi à n'importe qui. Le viol est terrible parce qu'il prive de l'estime de soi. Les femmes victimes de viol ont potentiellement un mari, des enfants. Elles sont souvent mères. Quand les femmes, notamment les mères, sont victimes de viol, leur vie de famille tout entière est bouleversée. Dans notre société, c'est tabou. Face à cet affront, les gens sont incapables de réagir normalement. Il y a un grand malaise. C'est pour cela que beaucoup de victimes choisissent le secret, préfèrent ne pas en parler, que ça ne se sache pas.
Fabrice Virgili, pourquoi la souffrance due à un viol est encore aujourd'hui souvent minimisée? C'est vrai qu'on en parle peu, pourtant vous l'évoquiez, le viol est une forme de torture qui touche les femmes mais qui touche aussi les hommes. L'un et l'autre ne sont d'ailleurs peut-être pas égaux devant cette arme de guerre qu'est le viol. Mais pourquoi c'est encore peu évoqué?
Alors, je crois que tout dépend de ce qu'on appelle peu évoqué, mais c'est vrai que... D'un côté, il y a un mythe, c'est celui de l'enlèvement des Sabines, c'est le fait finalement que les femmes seraient des butins de guerre et que de tout temps et dans toutes les guerres, ça fait partie finalement de ce qu'est l'état de guerre. Mais les mythes, c'est bien pratique finalement pour ne plus se poser de questions. Bon, voilà, bah, c'est comme ça. Et puis, de plus en plus, on sait dans les conflits, par les reporters qui sont sur place, par les travaux qui sont faits a posteriori, par les rapports des enquêteurs, que des violences sexuelles sont commises dans des cadres très précis, finalement. Non pas comme à côté, mais parce qu'il y a soit des ordres, soit une absence de contrôle. Et je crois que c'est tout ça qui fait que, désormais, pour la plupart des conflits, la question de la violence sexuelle est évoqué. C'est aussi le résultat de ce qui s'est passé dans les années 70, je crois qu'il est important de le souligner, c'est-à-dire que un mouvement féministe fort qui a mis la question du corps des femmes au cœur de l'actualité du débat politique, c'est-à-dire que la violence, même en temps de paix, hein, contre les femmes, on ne peut plus la taire. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, sur la plupart des conflits qui ont lieu, et l'ex-Yougoslavie de ce point de vue-là est un moment important, hein, la question des viols est sue. Alors, une chose est de la savoir, autre chose est de l'empêcher. Et on voit bien que là, le travail reste considérable. Même si du point de vue de l'arsenal législatif, hein, on a tout ce qu'il faut au niveau national comme au niveau international. Hein. Aujourd'hui, le viol est considéré comme constitutif du crime de génocide, constitutif du crime contre l'humanité. Toutes les juridictions de tous les pays condamnent le viol. Contrairement à tuer qui, en temps de guerre, finalement, est autorisé, le viol ne l'est jamais. Et pourtant... dans certains conflits, il est massivement employé, et même massivement employé sur ordre, comme on le voit dans le cas de la Syrie.
En quoi l'ex-Yougoslavie a été un tournant, vous venez de l'évoquer?
Parce que je crois que, pour différentes raisons, mais contrairement par exemple à ce qui s'est passé lors de la création du Bangladesh dans les années 70, ou lors de la très très longue guerre civile au Guatemala, qui dure des années 60 ou 90, où des viols sont massivement commis, mais finalement peu su, peu documenté, dont on ne parle pas. L'ex-Yougoslavie arrive justement après ce mouvement féministe qui pose la question du corps des femmes au cœur du débat social. En plus, c'est au sein de l'Europe. Et à un moment, la question de la violence sexuelle va, après la volonté de certaines, hein, de poser ça dans le débat, de le faire savoir, va devenir une des formes de violence finalement les plus connues et évoquées. Quand on pense à l'ex-Yougoslavie, on pense aux femmes violées, qui sont ensuite même maintenues une fois qu'elles sont enceintes pour qu'elles accouchent. Donc on voit là un autre aspect de cette violence, hein, c'est-à-dire que c'est aussi faire des enfants dans l'autre camp. Et je crois que du coup l'ex-Yougoslavie a joué un rôle important dans cette connaissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit dans les différents conflits qui ont eu lieu en Afrique ou en Asie, la question du viol est toujours sous-jacente. Alors, elle est plus ou moins connue, mais elle est toujours présente.
Mais est-ce qu'elle est perçue, traitée différemment, Manon Loiseau, justement, vous qui avez aussi beaucoup voyagé à l'Est, de l'Ukraine à la Tchétchénie, à l'ex-Yougoslavie, vous avez le sentiment que la particularité aujourd'hui en Syrie ou en Libye, c'est le traitement social, en fait, qui peut être fait.
C'est le regard de la société. Et en tout cas, oui, enfin, j'étais en Iran aussi, j'ai pas ressenti ça, j'ai beaucoup été en Tchétchénie. Le viol n'a pas fait partie. Alors, le viol sur les hommes a fait partie des techniques de torture utilisées par les soldats russes dans ce qu'ils appelaient les camps de filtration, qui étaient des camps de torture, en fait, pour des hommes entre 12 et 70 ans. J'avais recueilli beaucoup de témoignages à l'époque. C'était déjà tabou et compliqué pour des Tchétchènes de parler de ça. Mais c'était pas une pratique de l'armée russe, parce que ça n'avait, c'était pas non plus. Enfin, on sent vraiment que pour le régime syrien, et que ça a été la même chose en Libye, on sait que le viol brise à jamais et que ça disloque une société et ça disloque toute personne engagée dans une résistance et sa famille et toutes les personnes autour.
Donc, j'ai l'impression que là, effectivement, la distinction que vous venez de faire un peu tous les deux sur le viol en temps de guerre et le viol sur ordre, c'est-à-dire le viol en tant que projet de destruction, de prise de possession de la femme, du corps de la femme, et par cet intermédiaire-là, de tout ce qu'il apporte à la société, au sens y compris positif des enfants, etc. C'est-à-dire qu'on va prendre presque l'ennemi, de le détruire dans ce qu'il a de ce qui porte la vie pour l'ennemi. Et je crois que là il y a une dimension qui effectivement peut s'apparenter à une dimension de vouloir détruire une population et peut-être donc au crime de génocide.
C'est là où il y a un événement, un élément très important, c'est comment une société dont les femmes sont victimes de viols perçoit elle-même cette violence, parce que des viols ont pu être commis à très massivement et à très grande échelle, à la fin de la Seconde Guerre mondiale par exemple. On connaît le cas des femmes allemandes violées lors de l'arrivée de l'armée rouge en Allemagne, et puis également d'ailleurs des armées du côté ouest. Ça n'a pas détruit la société allemande. Parce que, d'une part, ces femmes à ce moment-là, entre elles, vont en parler. Et puis parce qu'on ne considère pas qu'il y a une atteinte finalement au cœur de ce qu'est la société allemande. Et puis peut-être aussi parce qu'elle est à ce moment-là déjà dans un état finalement de destruction.
Et il n'y a peut-être pas de volonté politique, entre guillemets, affichée.
Il y a surtout une volonté de revanche, effectivement, à ce moment-là, et d'affirmation du pouvoir et de la conquête du vainqueur sur le Troisième Reich nazi.
Asseoir sa suprématie.
Exactement. Donc il n'y a pas ça. Par contre, c'est vrai que, et si on revient au cas de l'ex-Yougoslavie, c'est également le cas, quand une société a l'impression que quand ces femmes sont violées, ça atteint toute la société, ça introduit finalement le sperme de l'ennemi, mais qui va biologiquement vous détruire en tant que groupe, hein, ou atteindre tous les hommes de la société. Parce que la particularité du viol, je crois que c'est une violence à plusieurs effets. Le premier, n'oublions jamais, c'est les femmes qui subissent ce viol et tous les gestes qui font partie, qui amènent jusqu'à la mort, puisqu'on a des viols dont les femmes ne témoigneront jamais parce qu'elles sont tuées par le viol et lors du viol. Et puis ensuite, on a toutes les autres violences qui sont alors les violences psychologiques sur ces femmes qui les mettent dans une situation de traumatisme durable, et puis celles dont nous parlons là, c'est-à-dire comment l'environnement, ça peut être la famille, ça peut être le voisinage, ça peut être la société tout entière, va réagir et va accueillir ou non ces femmes, va les répudier. Des maris vont-ils divorcer ou au contraire les protéger, les accompagner pour porter plainte? Moi, j'ai travaillé sur des dossiers, là en France en 1944, où mari et femme vont ensemble porter plainte.
Et on peut aller encore plus loin dans cette arme à triple détente, hein, que peut être le viol. Il y a aussi le cas des enfants qui naîtraient de ce viol. Ça veut dire que ça crée des générations aussi de traumatismes, de blessures qui se transmettent.
D'ailleurs, oui, enfin, dans le film, on ne l'évoque pas, mais il y a Annick Cojon, il y a deux jours, a recueilli un témoignage dans Le Monde. Il y a des centaines, voire des milliers d'enfants qui sont nés de ces viols en prison. Certains sont en prison, d'ailleurs, ces enfants. Beaucoup n'ont pas survécu. On a rencontré des femmes qui ont accouché, des centaines de femmes. Elles ont passé à l'intérieur des prisons. Donc, c'est de la destruction calculée pour les générations futures.
Et ce qui est en train de se passer en Syrie, ce que vous évoquez l'un et l'autre, c'est que c'est l'État, c'est quand même le régime syrien qui fait ça à sa propre société. Donc se pose quand même la question aussi de la reconstruction après. Si tant est qu'aujourd'hui, on estime que Bachar el-Assad est établi, restera, et qu'il n'est plus, que son départ n'est plus la solution à une résolution de la crise ou de la guerre civile aujourd'hui en Syrie, comment entend-il recomposer, refaire société sur des bases ainsi laminées, en fait, Madame Loiseau?
Complètement. Et puis, enfin, je pense que depuis le début, on est dans une guerre qui, et des moyens de guerre qui visent à détruire toute homogénéité de la société. Toute possibilité, d'ailleurs, finalement, de se reconstruire. Et non seulement il y a eu plus de 300 000 morts, et il faut voir toutes ces populations déplacées, mais le degré de violence et ces méthodes font que comment se reconstruire? Comment se reconstruire même ensemble? Comment parvenir à vivre ensemble, après, entre différentes communautés?
On parle de la Syrie. Est-ce qu'il y a des situations, aujourd'hui, qui peuvent être analogues à ce qui se passe dans ces histoires de viol? Je ne sais pas si, Fabrice Virgili, vous avez connaissance
sur
plus large.
Sur les conflits actuels.
Oui, enfin actuels ou récents. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose là où on atteint un point particulièrement singulier, en ce sens que c'est un pays sur sa population dans une opération de maintien de pouvoir et de stabilisation, de restabilisation.
Peut-être que la distinction, mais là je ne suis pas suffisamment spécialiste de l'ensemble des conflits contemporains, vous l'avez compris, je travaille plus sur les deux guerres mondiales, mais c'est vrai que là, le fait que ce soit un État qui organise cela est une particularité, mais par contre, que la violence sexuelle soit très largement utilisée dans la destruction du camp adverse, ou dans la terrorisation du camp adverse, c'est quelque chose qu'on trouve
en
Libye,
Daesh aussi,
et puis dans un certain nombre de pays africains.
On en a parlé aussi, pardon, pour les femmes Rohingyas en Birmanie.
Exactement, en Birmanie aussi.
Daesh avec les familles Zizi. Alors c'était de l'esclavagisme sexuel. C'était d'ailleurs très pensé. Ils avaient appelé ça. Ils avaient des étudiants qui ont étudié avant d'aller au Sinjar et de massacrer tous les hommes et de faire le rapt des femmes. Ça s'appelait Theology of Rape, donc la théologie du viol. Et donc c'était ce peuple non musulman païen ne mérite pas de vivre. Donc on assassine tous les hommes et on prend les femmes comme des butins et ça devient on les rend esclaves. On avait interviewé d'ailleurs au début du film, on pensait mettre les deux et finalement c'est impossible, c'est très différent. Donc peut-être qu'il y aura un autre film. On a interviewé beaucoup de femmes yézidis qui sortaient tout juste de Raqqa et de Mossoul, qui nous racontaient ce marché aux esclaves sexuels. Voilà, donc ça c'est une pratique très ciblée de Daesh sur les femmes yézidis qui a pas été, apparemment, on n'a pas réussi à trouver témoignage sur des femmes syriennes, ce qu'ils auraient fait la même chose sur des femmes syriennes. Mais ça n'en demeure pas moins une vraie, quelque chose de totalement stratégique dans un acte de guerre qui est celui de l'esclavagisme sexuel.
Manon Loiseau, qu'est-ce qu'elles nous disent à nous, femmes occidentales, ces femmes syriennes que vous avez fait témoigner devant votre caméra? Elles nous rappellent l'importance de la liberté, rassure de la parole et le courage nécessaire aussi pour y parvenir. Vous l'avez évoqué, ces images vont circuler. Qu'est-ce que vous attendez comme réaction? Qu'est-ce qui peut se passer à partir de là? Elles sont très fatalistes et très pessimistes devant votre caméra. Elles disent pourquoi les choses se passent comme ça? Qu'est-ce qu'on y peut, dit l'une d'elles. Et nous, qu'est-ce qu'on y peut d'ailleurs?
Elle dit d'ailleurs, on ne croit plus en l'ONU, ne venez pas nous parler ni de l'ONU ni de Genève. Faites sortir, vous femmes occidentales, faites en sorte que vos gouvernants fasse pression sur Bachar al-Assad pour faire sortir toutes les femmes qui restent en prison. Ça, c'est un vrai espoir. Traduire un jour leur bourreau en justice, évidemment qu'elles en ont l'espoir. On sait le temps que prend la justice internationale. Mais elles disent aussi, mais on sait aussi qu'une fois que vous aurez regardé ce film, vous passerez à autre chose. Donc, il y a quelque chose aussi de très... mais je crois vraiment que ce qui leur importe le plus, c'est celles qui restent encore à l'intérieur. C'est juste qu'on sache. Nous, après, l'une d'entre elles, il y a un micro-projet, on espère que ce film mènera à ça. Mariam, qui a 5 enfants, qui a été rejetée par toute sa famille, a créé une école pour petites filles dans des camps de réfugiés qui ont été mariées de force. Ça, c'est un autre... aujourd'hui, dans les camps de réfugiés, il y a des milliers et des milliers de petites filles, que ce soit en Jordanie ou en Turquie, qui sont mariées de force par leur famille, par des hommes qui viennent des Émirats Arabes Unis ou des Turcs, et qui ensuite, ces petites filles divorcent. Et donc, elle a ouvert une école pour 30 petites filles syriennes qui ont été mariées de force, qui ont réussi à divorcer, pour que ces femmes, ces petites filles, puissent étudier et ensuite connaître leurs droits en tant que femmes.
Voilà comment construire, c'est une manière de se reconstruire la société de demain sur des ruines. C'est des questions qui vont se poser encore dans les semaines et les années à venir. Merci beaucoup à vous, Fabrice Virgili. Merci à vous, Manon Loiseau. Je rappelle que votre documentaire Syrie, le cri étouffé, prévu pour diffusion ce soir, a été déprogrammé, mais reprogrammé. Donc ce sera mardi en deuxième partie de soirée. Merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table qui a programmé, préparé cette émission. Claire Maillot et Chloé Leblond, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. À la réalisation Perret Legras avec Pascal Baudin. Très bel après-midi à tous.